Prenez place, chers amis. Alors avant d'aller plus loin, nous allons prier que le Seigneur nous aide. Nous serons donc dans Hébreux chapitre 11. Donc si vous voulez suivre ce que je dis, vous pouvez avoir votre Bible ouverte sous vos yeux. Sinon, il va y avoir aussi sur l'écran derrière nous. Mais prions ensemble. Seigneur, effectivement, nous sommes de ceux qui veulent redire cette histoire de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui reviendra parce qu'il est digne de confiance. Et donc aide-nous maintenant à profiter de l'exemple de nos ancêtres dans la foi, à pouvoir être ceux qui placent notre foi dans le Fils par lequel tu nous as parlé en ces derniers jours. Et nous te demandons cela au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais si vous voulez, ce matin, c'est un peu comme si vous êtes dans les vestiaires avant un premier match au tournoi de Grand Chelem au tennis. Je ne sais pas si vous jouez au tennis. J'ai vu que Serena n'a pas remporté l'US Open hier soir, mais elle a été battue par une jeune Canadienne dont le nom m'échappe. Mais voici, vous êtes un joueur de tennis maintenant et vous êtes dans les vestiaires avant votre premier match en tournoi de Grand Chelem. Et avant de sortir sur le terrain, vous voyez dans les vestiaires, c'est souvent c'est là où il y a quelques images des grands joueurs du passé. Alors pour le moment, nous sommes tous femmes, ok, même si on est hommes, donc on se met dans la peau d'une joueuse féminine. Ok, on y va. Je vois d'abord une image de Serena elle-même, la grande, puissante Serena qui a tellement dominé ces dernières années. Je vois ensuite deux Belges, Justine et Kim, dont je suis fier si je suis belge. Je vois malheureusement très peu d'anglais, je dois avouer, il n'y en a pas. Je vois deux Allemandes, Steffi et Monica, si ça vous dit quelque chose. Je vois une Suisse, Martina, je vois une autre, ou une Américaine, une autre Martina, d'origine tchèque au début. Je vois Chris Evert, si vous vous souvenez d'elle. Et maintenant, pour ceux qui suivent le tennis depuis un long moment, je vois Margaret, je pense qu'elle était peut-être anglaise, et je vois Billie Jean. Et je vois toutes ces images, tout ce passé, des grands joueurs qui ont réussi. Et je me dis, waouh, c'est chouette. Leur exemple m'encourage. Ils me rappellent, ou elles me rappellent de ce passé. Oui, avec des luttes, avec des grands matchs, avec des défis, elles ont pu remporter le prix. Et donc, je suis encouragé. Je sors sur le terrain, à donner le maximum de moi-même pour que moi aussi je m'insère dans cette histoire glorieuse pour aussi remporter le prix. Alors, Hébreux chapitre 11, avec cette longue liste de personnes, on n'a pas terminé la lecture, ça continue encore et encore avec d'autres exemples de personnes qui ont exercé la foi. C'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Vous avez entendu cette répétition, je pense que c'est 35 fois ou quelque chose du genre, dans ce chapitre, par la foi. Et donc, c'est par la foi que nous entendons parler d'une longue liste de personnages de l'Ancien Testament, d'Abel jusqu'à divers rois et prophètes. Aussi dans le but de nous inspirer à notre tour. On va faire la moitié, première moitié que nous avons lue cette semaine, et on va faire la deuxième moitié la semaine prochaine. Mais l'application pour ces deux prédications sera la même. Voyons cette application au chapitre 12, à partir du verset 1, parce que c'est là où l'auteur il va dans ses propos. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, on voit la métaphore, n'est-ce pas, sportif, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Mais comment devons-nous courir alors? Comment devons-nous rejeter le péché et tout fardeau? Nous devons courir avec persévérance. Avec persévérance. Et c'est là où on y était la semaine dernière, n'est-ce pas? On avait entendu à la fin du chapitre 10, avec cet avertissement, chapitre 10, verset 36, de persévérer afin d'obtenir ce qui nous est promis. Mais aujourd'hui, au lieu d'être avertis, nous sommes plutôt encouragés de persévérer. Nous prenons donc un moment de contempler. D'après le verset 2 du chapitre 11, les anciens qui ont reçu un bon témoignage de la part de Dieu, afin de nous motiver, nous exhorter de faire de même dans notre propre foi. Et dans quel sens ont-ils excellé? S'agit-il de leur talent, de leurs grands exploits pour le Seigneur? Non, il s'agit de leur foi. La foi de ces personnes, c'est bel et bien le thème majeur de ce chapitre. Verset 1 et verset 2, c'est à cause d'elles, c'est-à-dire la foi du verset 1, ceux qui croient, le dernier verset du chapitre 10, qu'ils ont reçu un bon témoignage. Et à la fin du chapitre, verset 39, qu'entendons-nous? Ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage. Ils ont fait preuve de foi, ces ancêtres. Et ça fait distinction avec mon illustration tout au début du tennis, n'est-ce pas? Car pour être inspiré, je pense, par les grands gagnantes des grands chelems du passé, il faut quand même que j'ai un peu de talent en tennis, non? Pour penser que je peux aussi moi-même remporter un grand chelem, c'est pas rien ça. Il faut être quand même compétent en tennis pour faire cela. Et le danger, effectivement, ici, c'est de penser que ces grands héros sont trop grands pour moi. Abraham, Moïse, David, etc. Eux, ils sont trop performants. Eux, ils sont sur une échelle autre que la mienne. Et donc, moi, je n'y arriverai jamais. Pas la peine même d'essayer. Imaginons si c'était moi, Steve Orange, dans les vestiaires, avant de sortir pour un match. Je me dirais, mais qu'est-ce que je fais ici? Plutôt que, super, l'exemple qu'ils m'ont donné. Mais c'est là où nous devons faire distinction, parce que ce n'est pas décourageant cette liste pour nous, mais plutôt encourageant. Car tout chrétien, pas juste les super chrétiens, tout chrétien doit exercer et peut exercer la foi. Ses ancêtres faisaient preuve de foi. Force est de constater que cette exhortation que nous voyons dans ce chapitre 11 ne mentionne nulle part les faiblesses dans la foi de ces différents personnages. Et ils en avaient des faiblesses. Abraham, Moïse, David. Mais ici, le but, c'est de se focaliser sur leur exemple de foi, peu importe leur faiblesse. Malgré des échecs et des moments moins glorieux, l'auteur affirme que, grosso modo, ils persévéraient dans la foi, tout comme nous pouvons aussi le faire. Ici, aujourd'hui, septembre 2019, à Bruxelles, dans nos circonstances à nous, rejetons tout fardeau, chapitre 12, verset 1, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je connais pas les circonstances de votre vie, chers amis, personnellement parlant, peut-être pour certains un peu plus que d'autres. Mais ici, ce verset reconnaît que le péché peut facilement nous envelopper. Donc, vous me dites, il ne comprend rien, ce pasteur qui parle de ma course chrétienne. Mais Dieu comprend votre course chrétienne, le péché auquel vous devez faire face. Et il dit, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et cela aussi reconnaît que oui, pour nous aussi, la foi chrétienne pourrait être considérée une épreuve. Dieu le sait. Moi, je ne sais pas vos circonstances d'épreuve actuellement parlant, mais courons avec persévérance cette épreuve. Il se peut déjà que cela perturbe ce que nous venons d'entendre à certains d'entre nous. Car pour beaucoup, de nos jours, la foi, voyez-vous, n'a rien à voir avec le monde réel, le monde objectif. Non, pour beaucoup, c'est rien qu'une préférence personnelle, un choix subjectif dans le domaine de la psychologie. Et parce qu'on présuppose qu'il n'y a pas de critères objectifs pour déterminer si une foi ou une autre foi est bien placée ou n'est pas bien placée, nous sommes tous, dans cette perspective, censés à ne pas questionner le bon fondement ou pas d'une foi ou d'une autre. Que vous donc préférez la foi chrétienne qui pour vous implique que ce matin vous êtes ici rassemblés dans une église ou que vous préférez plutôt une expression de votre foi qui considère fréquenter une église comme étant un peu trop formelle et traditionnelle. Peu importe, c'est votre foi, votre choix, voyez-vous, votre préférence personnelle. Que vous êtes plutôt pour l'islam, ou peut-être pour des belles promenades dans les montagnes, c'est votre foi, votre choix personnel. Ce que vous décidez de croire, c'est un choix subjectif, en dehors de tout critère objectif, d'après cette façon de parler. Pourquoi cela? Car objectivement, selon cette pensée, nous ne pensons pas qu'un seul vrai Dieu existe. Nous pensons qu'il est plutôt une création subjective de l'homme. Et voilà pourquoi il y a autant d'expressions légitimes de ce que nous appelons aujourd'hui la foi. Mais bien entendu, là, nous sommes super loin de la définition biblique de ce qu'est la foi. Et c'est pour cette raison-là, je pense que l'auteur démarre son chapitre 11 avec une définition de la foi. Ce n'est pas une définition exhaustive, mais cette définition souligne deux éléments indispensables d'une foi chrétienne. Verset 1 du chapitre 11. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire la confiance que les choses que nous espérons en tant que chrétiens vont se réaliser. Non pas parce que nous croyons dans ces choses en dépit de toute preuve autour de nous, comme si on se force à faire un saut dans le vide ou un acte de foi, peu importe ce que la raison me dit. Non, la foi, c'est l'assurance, une certitude de ces choses, car celui qui promet de telles choses est digne de notre confiance. Mais deuxièmement, la foi est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. C'est-à-dire, ces choses que nous croyons, elles existent. Donc, par exemple, la nouvelle création, le royaume de Dieu, le pardon de nos péchés, le règne actuel de Jésus-Christ sur ce monde, sur cet univers, le fait que Jésus reviendra pour nous juger, ces choses nous croyons, mais elles ne sont pas vérifiables à travers une expérience scientifique. Nous ne les voyons pas avec nos yeux, on ne peut pas les mesurer, les peser, les soumettre à des expériences. Mais toutefois, pour de bonnes raisons fiables, nous les croyons et par conséquent, notre foi démontre que ces réalités-là existent. Elles témoignent de la réalité de telles choses. Moi, j'aimerais maintenant qu'on voit cela dans ces premiers exemples que l'auteur nous donne à partir du verset 3 jusqu'au verset 7 dans cette première liste de ceux qui ont exercé la foi. Car ces exemples mettent surtout en relief ces choses que nous ne voyons pas, des réalités invisibles. C'est le cas tout d'abord avec le verset 3 où ce n'est pas une personne qui est mis en relief, c'est une croyance. Verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc, comprendre que le monde est venu à son existence grâce à la parole de Dieu, Dieu a parlé, la chose fut. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous voyons visiblement. Non, ce que nous voyons, le monde matériel autour de nous, ne provient pas de ce qui est visible. Nous n'avons pas assisté à la création. Bien sûr que non. Du coup, ce n'est pas par l'œil nu que nous puissions affirmer que Dieu a créé le monde. Non, c'est par la foi. Mais ce n'est pas une foi mal fondée, cette foi-là. C'est la foi dans le Dieu qui nous révèle de telles choses. Le Dieu qui s'est révélé à nous suprêmement en Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Hébreux commence le chapitre 1 en nous parlant de ce Fils Jésus. C'est par lui que Dieu a fait l'univers. Il y était. Et il nous révèle que Dieu l'a fait par sa parole, dans sa parole. Et nous croyons sur base de sa parole. Est-ce que Jésus est digne de notre foi? Voilà, là, toute la lettre aux Hébreux crie oui à cette question-là. Si vous n'avez pas lu ce qui précède en hébreu, il faut lire l'épître. Toute la lettre nous dit à quel point Jésus est supérieur à toute autre chose, digne de notre confiance. Il faut, comme ce monsieur dont Samuel nous a parlé, lire pour vous-même les récits de la vie et du ministère, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Si vous-même vous posez des questions sur la fiabilité de Jésus-Christ, ça ne sert à rien de dire « je vais juste aveuglément chanter et c'est ainsi que je deviens chrétien ». Non, je dois être persuadé que Jésus est digne de ma confiance. La foi en lui est une foi bien fondée, chers amis. Et cette foi nous permet de discerner donc ce qui est vrai, objectivement parlant, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, tel que la création de ce monde par sa parole puissante. Cet accent sur ce que nous ne voyons pas est aussi présent dans l'exemple à la fin de cette petite section, verset 7. L'exemple de Noé. C'est par la foi que Noé, nous dit le texte, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Au moment où Dieu appelait Noé à construire l'arche, on ne voyait aucune goutte d'eau. Construire un bateau, c'est ça une arche, loin de là où il y avait la mer, lorsque Noé se trouvait avec sa famille sur la terre ferme et aride, cela d'un point de vue visible, chers amis, avait l'air tout à fait ridicule. On ne peut qu'imaginer le genre de moquerie dont il devait faire face. Bientôt la pluie, Noé, hein? Noé, pardon. Vite, vite! Les enfants Noé! Il va pleuvoir ce soir, les gars! Hein? Que faisait-il, Noé? Il réagissait avec foi à la parole de Dieu, car il estimait celui qui l'avait averti comme étant digne de sa confiance. Il était, le texte nous dit, divinement averti. Et du coup, en connaissant Dieu, il était saisi d'une pieuse crainte. C'est ainsi qu'il sauvait sa famille. Et il condamna le monde avec son mode de fonctionnement purement visible. Et il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et la question se pose, exerçons-nous une telle foi aujourd'hui? On reviendra à cela à la fin. Mais est-ce que nous avons une foi qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais qui réagit à ce que Dieu nous dit? Il faut une telle foi. Car entre le verset 3 et le verset 7, il y a deux exemples un peu plus compliqués d'Abel et d'Enoch, qu'on ne va pas aborder en détail maintenant, qui affirment clairement, au moins ceci, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire deux choses, nous dit ces versets. D'abord que Dieu existe, et deuxièmement qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Oui, d'abord que Dieu, il existe, c'est la moindre des choses pour la foi, n'est-ce pas? Le Dieu, non seulement, non pas un Dieu juste de notre création, mais le Dieu qui se révèle à travers notre histoire, par ses actes, suprêmement en Jésus-Christ. Nous devons croire que ce Dieu-là, il existe, il est là, objectivement, il est réel, même si nous ne le voyons pas de nos yeux. Et nous devons croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça vaut donc la peine de chercher ce Dieu-là, parce qu'il nous récompense, il nous déclare juste grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés, le statut de juste aux yeux de Dieu. Il donne un héritage à ceux qui croient en lui, un royaume à venir dans toute sa plénitude lors de la nouvelle création, un monde sans péché, sans souffrance, sans même la mort, des possessions, d'après le chapitre 10 que nous avons évoqué la fois dernière, meilleures et permanentes. Mais nous ne voyons pas ces choses-là. Enoch, qui plaisait à Dieu, a été enlevé dans la présence de Dieu. Nous aussi, nous serons dans sa présence pour l'éternité, nous dit le Nouveau Testament. Et donc, ces premiers exemples témoignent de cette foi-là que Dieu existe, qu'il récompense ceux qui lui font confiance, bien que ces réalités-là ne soient pas visibles. Mais à partir du verset 8, on va vers une autre série d'exemples. Abraham et ses descendants. Et nous constatons là que Dieu a le pouvoir de réaliser ce qu'il promet, c'est ce qu'il a promis, même dans des circonstances peu prometteuses. Au début, nous avons affaire, à partir du verset 8, j'ai mis dans le feuillet à partir du verset 11, mais ce n'est pas vrai. Au début, nous avons affaire, à partir du verset 8, à deux promesses données à Abraham et la foi qui en découle. Alors, la première promesse se trouve au verset 8. C'est par la foi qu'il obéit à l'appel de Dieu lorsqu'il quittait son pays, vers le pays qu'il devait recevoir en héritage. Car il partait sans savoir où il allait. Mais il se fiait néanmoins à Dieu pour suivre ce Dieu, parce qu'il faisait confiance que Dieu allait lui donner ce qu'il lui a promis. Comme vous le savez, la famille Bélis vient de déménager vers Louvain-la-Neuve et pour s'installer là-bas. Bah, imaginons maintenant, moi je loue un camion avant leur déménagement prévu, Et sans prévenir, j'arrive chez eux et je tape sur la porte. Il y a Lizzie déjà debout, il y a Ruby encore au lit qui frotte un peu ses yeux. Et je leur dis, écoutez les gars. Ou écoutez Ruby et Lizzie. Bon, je les appelle plutôt Ruby et Lizzie que les gars en fait. Hein. Mais j'ai quatre gars avec moi. Okay? On est là, on va vous déménager. C'est vrai? Je ne savais pas qu'on déménage. Non, merci. Mais écoute, oui, oui, tout est prêt. Faisons-le. Ils vont faire le nécessaire maintenant. Mais où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance. Tu t'iras bien. Robbie réagirait comment? Tu blagues? Et puis, peut-être s'il faut, il va m'empêcher d'entrer, j'imagine. J'ai une famille, j'ai trois enfants. Je vais pas partir comme ça sans savoir où est-ce qu'on va. Mais Abraham faisait preuve de foi parce qu'il avait confiance que Dieu était digne de sa confiance. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger. Oui, bien qu'il soit en Canaan pendant des années, il y était comme en un pays étranger, habitant sous des tentes. Vous imaginez? C'est un peu comme si maintenant, avec la famille Belize déménagée, qui vont rester, nous espérons, ils vont rester pendant des longues années à Louvain-la-Neuve. Peut-être jusqu'à la fin de la ministère, qui sait. Mais imaginons qu'ils y restent pour toute la ministère. Mais au lieu d'être dans une maison qu'ils viennent d'acheter, merci Seigneur pour cela, tous les 3 mois, 6 mois, 1 mois, quelques semaines, ils doivent redéménager dans différents endroits. Pendant 50 ans de ministère là-bas. Jamais quelque chose de stable, jamais quelque chose de permanent. C'était ainsi pour Abraham lorsqu'il était en Canaan. Mais malgré, le texte nous dit, verset 10, en statut d'étranger, il croyait en Dieu. Croyait que oui, il fera partie de la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Sa foi, voyez-vous, en son Dieu, était solide. Il était résolu de lui croire et lui obéir, même dans des circonstances peu prometteuses. Ce qui était le cas aussi par rapport à cette deuxième promesse. Car malgré l'âge avancé de Sarah et d'Abraham, il était déjà, d'après le verset 11, Abraham un homme atteint par la mort, c'est-à-dire il était très âgé et ne pouvait pas vraiment avoir des enfants. Malgré tout cela, Dieu promet un fils, un descendant. Et de ce fils, Isaac sera issu des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. Mais peut-être vous vous souvenez de Sarah et vous vous dites, mais n'avait-elle pas plutôt rigolé à cette promesse parce qu'elle ne l'avait pas cru? Et oui, c'est juste, le récit affirme cela au départ. Mais ces versets ici nous indiquent qu'ensuite elle avait cru à la promesse, malgré cette difficulté, quasi impossible aux yeux humains. L'exemple suivant, c'est peut-être le plus frappant. Parce que ici nous avons affaire à un défi qui témoigne de la confiance en Dieu. Cet exemple d'Abraham qui devait sacrifier Isaac, dont Samuel nous a lu tantôt. Isaac, c'est le fils de la promesse. Verset 18 nous rappelle ce qui a été dit à son sujet. C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Isaac, c'est le seul moyen par lequel Dieu pouvait donc réaliser ses promesses. Et maintenant, il va l'offrir en sacrifice. Mais de quoi s'agit-il? Mais telle est sa foi, sa confiance en Dieu. Verset 19. Qu'Abraham raisonnait que Dieu qui est puissant pouvait même ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est bien sûr le cas. Dieu peut ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Ici, dans le cas d'Isaac, merci Seigneur, ce n'était que symboliquement qu'Isaac est revenu de la mort. Mais cela en dit long sur la puissance de Dieu de ressusciter les morts à la vie. Il y a donc l'exemple d'Abraham et Sarah, Et ensuite, dans cette section, on termine avec l'exemple des trois autres patriarches et leurs gestes indicateurs avant de mourir, chacun qui démontre qu'il continue à croire les promesses données d'abord à Abraham. Des promesses d'une grande nation, n'oublions pas, d'une bénédiction et d'un pays qui sera le leur. Bon, d'abord, il y a Isaac qui bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir, nous dit le texte. Ensuite, il y a Jacob, au moment de mourir, qui transmet la bénédiction au fils de Joseph, qui indique l'importance pour ses promesses pour lui. Et puis, il y a Joseph. Joseph qui, en Genèse chapitre 50, avec sa mort imminente devant lui, donne des instructions en vue de ce qui aura lieu après sa mort. À ce moment-là, lorsqu'il donnait ses instructions, il était en Égypte, là où il avait passé toute sa vie adulte. Mais il se rappelait de la promesse d'un pays pour le peuple de Dieu. Et il a fait mention de l'exode des fils d'Israël, même si cela avait lieu des centaines d'années après sa mort. Il a cru néanmoins la promesse. Il donne des ordres pour que ses ossements soient ramenés en Israël, 400-500 ans après. Et cela fut le cas lorsque l'exode a eu lieu. La foi de Joseph, voyons-nous, c'était une foi, si on revient en arrière, clairement verset 13, qui montrait que même s'il n'a pas obtenu les choses promises, il était au moins 400-500 ans d'obtenir ses promesses. Il l'a vu et l'a salué de loin en confessant qu'il était étranger et résident temporaire sur la terre. Donc, peu importe sa réputation en tant que haut fonctionnaire égyptien, premier ministre, très riche, non, d'un point de vue de sa foi, il attendait quelque chose qu'il n'avait pas obtenu dans sa vie. La réalisation de cette promesse n'allait pas avoir lieu avant quelques siècles. Mais toutefois, cela dictait la direction de sa vie. Et ça nous mène, chers amis, à notre conclusion. Et toi, et ta foi, est-ce que votre foi dans les promesses de Dieu dicte aujourd'hui la direction de votre vie? Ou peut-être je peux demander ceci, quelles sont les promesses de Dieu à notre égard, à votre égard, que nous ou que vous remettez en question aujourd'hui? Tout le chapitre 11, on le redira à la semaine prochaine, nous dit de prendre courage de l'exemple de foi de nos ancêtres. Oui, ils ne voyaient pas ce qui leur a été promis. Oui, les circonstances dans lesquelles ils devaient croire ces promesses étaient souvent très peu prometteuses. Mais ils ont cru tout de même. Ils étaient profondément persuadés que Dieu leur avait donné ses promesses et que ce Dieu-là allait tenir parole. Il s'appuyait, comme parfois on chante, sur sa parole et ses promesses. Faisant de même, nous rejetons tout fardeau et le péché, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Certains d'entre nous, nous devons nous rappeler du côté invisible des promesses de Dieu. Cela demande de la foi dans le présent. Lorsque nous sommes ici rassemblés à l'Église en train de parler et affirmer les promesses de Dieu à notre égard, c'est facile de se dire « Oui, je crois à ces réalités invisibles, la patrie céleste, le pardon de nos péchés, le royaume encore à venir, la vie éternelle. » Cela a l'air raisonnable, n'est-ce pas, lorsqu'on lit la Bible. Mais il suffit de rentrer demain à l'école ou au travail, ou peut-être simplement de rentrer cet après-midi en famille. Et là, on se rendre compte, ou on ressent beaucoup plus, le côté invisible de ce que nous affirmons ici, le dimanche matin. Et ce qui est visible semble tout d'un coup plus sûr. Et donc la tentation de revenir en arrière, de ressentir plus à l'aise, si vous voulez, parmi les autres, et cette tentation-là devient très grande. Mes amis et ce que eux ils pensent de moi, ou mes collègues et ce que eux ils pensent de moi, ou ma famille et ce que ma famille pense de moi, commence à primer sur autre chose. Pourquoi? Parce que je vois ses amis, ses collègues, ses membres de la famille. Jésus, je ne le vois pas. Le royaume dont il parlait, la vie éternelle, où est-elle pour du vrai lorsque je suis confronté à une pression d'aller dans le sens du vent, pour que je ne sois pas ridiculisé, pour que je garde ma réputation auprès des autres? Où est-il, Jésus? Mais peut-être pour d'autres, c'est dans le domaine des relations intimes où ça joue. Ce qui semble être clair au sein de l'Assemblée lorsque nous faisons des études bibliques, nous affirmons qu'il n'y a pas de relation intime avant le mariage selon la foi biblique. Pas de mariage avec quelqu'un qui ne partage pas la foi en Christ. Ça a l'air raisonnable lorsqu'on y pense. Mais cela a bien plus l'air abstrait lorsqu'on rencontre quelqu'un. N'est-ce pas pour du vrai? Cette personne, tout d'un coup, devient une personne bien réelle, bien visible. Mais les promesses de Dieu semblent être un peu éphémères à ce moment-là. Cette personne-là, elle est tellement gentille, tu sais. Ou cette personne-là, quand même, fait preuve de beaucoup de sagesse. Je vois ça. Et pourtant, il y a des réalités que je ne vois pas, qui priment, qui doivent primer au-dessus de ce que je vois. Peut-être vous avez des circonstances difficiles à imaginer. Aujourd'hui, et vous dites, la vie éternelle, la paix, tout ça sont des choses que je ne vois pas. J'ai plutôt l'amertume et le découragement qui est à ma porte. Un conjoint qui profite de moi, un corps qui ne fonctionne plus, un cerveau qui ne fonctionne plus. Comment croire encore aujourd'hui que Dieu accomplira ses promesses tellement merveilleuses? Il faut persévérer, chers amis, dans la foi. On verra la semaine prochaine d'autres dangers pour nous d'aller vers ce qui est plus visible, même au sein de l'Église, de dire, bon, la parole de Dieu, est-ce que ça me suffit? Est-ce que je ne suis pas attiré vers ce qui est impressionnant, point de vue religieux? Jésus, nous ne voyons pas, mais nous sommes appelés à faire confiance à lui qui nous parle dans sa parole. Ça nous suffit. Et la semaine prochaine, nous découvrons aussi qu'il est lui-même l'exemple suprême d'une telle foi. Prenons courage, chers amis. Rejetons le péché et courons avec persévérance. Prions ensemble. Merci, Seigneur, pour les témoins que nous avons contemplés aujourd'hui. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph. Merci, Seigneur, que toutes ces personnes ont fait preuve de foi. Et nous te demandons que nous puissions faire preuve de foi. Nous puissions découvrir, si c'est le cas, si c'est nécessaire pour nous, une vraie foi en Jésus-Christ qui est digne de notre confiance. Et que nous puissions également, Seigneur, si nous avons cette foi, persévérer dans la foi. Malgré les choses que nous ne voyons pas, malgré des circonstances peu prometteuses dans lesquelles peut-être nous vivons, nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier et de nous encourager à persévérer. Cela pour ta seule gloire, nous te prions. Amen.